Simplifie-toi ta journée avec Élisane Pellerin.
Bienvenue à C'est toi ta journée, une émission où on parle avec des personnes qui sont discriminées. Je suis Élisane Pellerin, j'ai un doctorat en sciences politiques. Je parle surtout dans mes travaux d'inclusion. Et aujourd'hui, on est avec un nouvel invité pour l'épisode 2, M. Kevin Breton, qui nous fait l'honneur d'être avec nous en studio. Bonjour, Kevin.
Allô, Élisane. Bonjour.
Kevin, on se connaît quand même depuis quelques années, donc on va se tutoyer, si tu permets.
Mm-hmm. Ben oui, je connais tout ici. Je connais même votre technicien.
Oui, Kevin, qui est un ancien ici de la station.
C'est ça, le studio.
Qui nous a quittés parce qu'il est rendu trop big pour nous.
Oui, non, c'est pas ça. Mais je me sens quand même à la maison ici quand je reviens.
Mais voilà, il n'y a plus beaucoup de temps pour revenir, donc il nous fait quand même l'honneur de faire un petit détour aujourd'hui pour être dans mon balado. Parce que je l'ai invité, je pense que Kevin est quelqu'un qui a beaucoup à dire au sujet de l'inclusion, puis qui est quand même un militant au niveau de l'inclusion sociale des personnes en situation de handicap. On a beaucoup entendu parler dans les médias de Kevin. Tu faisais aussi des chroniques à une époque pour Urbania, mm-hmm. qui était quand même très lu, qui était un peu cocasse. Et donc, maintenant, tu es rendu à Radio-Canada, rien de moins quand même.
Ouais. Oui, ben oui, Urbania, c'est pas mal, tu sais, la plateforme qui m'a emmené vers d'autres médias après. J'écrivais là, en même temps que je travaillais pour un organisme de défense de droits qui s'appelait qui s'appelle toujours Execo.
Oui, Execo, qui travaille encore là, à la défense des droits.
Ouais, ça fait comme 50 ans que cet organisme-là existe. Puis en même temps que je m'occupais des communications pour cet organisme-là, j'aime beaucoup la création, j'aime beaucoup le monde médiatique, je voulais pas trop m'éloigner de ça. Donc, je me suis comme trouvé un petit travail à la pige là-bas où je livrais des chroniques à tous les deux semaines sur un peu comme c'était quoi de vivre avec un handicap. Puis oui. Ouais, ça a quand même permis de me faire connaître. Tu sais, je pense même qu'ici, chez Canal M, comme la première fois que j'étais pas ici, les bureaux dans ce temps-là étaient sur René Lévesque. La première fois que j'étais venu, c'était pour parler de ces chroniques-là. Ça m'a donné l'occasion de rencontrer des gens que tu connais aussi, Lisanne, Mickaël et oui. Thibault de Portrait de Montréal.
Oui.
Parce qu'eux aussi travaillaient avec Urbania. Fait qu'à partir de là aussi, ça m'a comme permis de me créer un plus grand réseau. Fait qu'Urbania a vraiment été comme le point de départ, je pense, là, de ma carrière.
Oui, parce que t'es journaliste, en fait, de profession. Là, nous, on s'est connus là, dans des cours de sciences politiques, mais c'était pas c'était des cours que tu prenais là, en option. Là.
Ouais, j'ai fait une année. En fait, c'est après mon bac en com. Je savais pas trop encore ce que je voulais faire. J'aimais beaucoup l'université, j'aimais beaucoup Sherbrooke. C'était tout de suite après la grève étudiante de 2012,
oui.
Ce qui m'a quand même assez allumé politiquement et tout ça. Fait que j'ai juste décidé d'aller faire un certificat en même temps que je pouvais m'occuper du poste de rédacteur en chef.
Oui, c'est vrai, tu étais rédacteur en chef là-bas, je m'en rappelle.
Ouais, au journal étudiant, le collectif. Fait que je prenais pas vraiment au sérieux mes cours, c'était comme plus pour garder mes prêts et bourses. J'ai passé genre tous mes cours entre 60 et 70%. J'étais pas très bon. J'étais vraiment pas très bon. Mais ça me permettait de prolonger mon expérience universitaire puis de m'aligner un peu sur ce que je voulais faire après.
Et pourtant, moi, je me souviens, t'avais l'air comment est ton affaire dans les cours?
Moi, je me rappelle du cours sur l'ONU. Je sais pas si on était ensemble dans ce cours-là.
Oui.
Ça, c'était un cauchemar pour moi. Ce cours-là, j'ai vraiment rien compris. En fait, c'était très du par cœur. Il fallait comme apprendre des libellés.
Oui,
puis...
il fallait apprendre la charte et tout. Là,
c'est
oui.
ça. Puis ben moi, j'avais juste pas la discipline pour ça. J'étais pas intéressé vraiment par ça. Fait que je m'en suis tiré par la peau des fesses.
Ah bon?
Mais ben je suis content de savoir que c'est cette image-là que je dégageais. Mais en vérité, j'étais pas très, très bon.
Mais en même temps, je te regardais de derrière. Moi, j'étais assise derrière toi. Puis on avait quelques conversations sympathiques l'ascenseur parce qu'on prenait l'ascenseur ensemble. Mais
ouais.
On se pariait assez peu à ce moment-là. Là, on a commencé à se parier un peu plus tard parce qu'on s'est recroisés quelques reprises.
Mm-hmm.
Entre autres, après Canal M ou avant Canal M, tu me diras, mais tu as été à Ami Télé.
Mm-hmm.
J'étais aussi un peu. J'ai fait quelques entrevues là-bas. Donc on s'est croisés là, entre autres.
Tu as été la réa d'une bourse, Ami Télé aussi.
Oui, j'ai été la réa d'une bourse. Merci de souligner, Kevin.
Je vais le dire. Parce
on
que,
peut souligner
tant
mon CV.
Tant qu'à se tirer des fleurs, c'est ouais. ça. On va le faire mutuellement. Puis oui, c'est ça. Après, on s'est revu chez Ami Télé, là où j'ai travaillé pendant 8 saisons.
Oui, et là, tu viens de quitter Amitélé, ouais. Kevin, pour d'autres défis. Ben, entre autres, tu vas être un commentateur pour les Jeux olympiques de Paris, quand même, rien de moins.
Oui, ben, c'est déjà de quoi que je faisais avant, depuis les Jeux de Tokyo puis les Jeux de Pékin. C'est juste que je cumulais cette job-là avec mon travail d'animateur chez Amitélé, ce qui faisait des grosses semaines, en France. Oui. Une semaine sur deux, on avait un tournage chez Amitélé, donc... Ça me faisait une semaine sur deux où je travaillais 6 jours semaine. C'était trop. Comme j'étais tanné, j'avais le goût d'avoir du temps pour moi, pour écouter la télé, gamer, passer du temps avec ma blonde puis mon chien. Puis
oui,
juste
mais
comme
ça aide toujours le couple là, d'être à la maison au moins une journée par semaine. Là.
Oui, puis j'avais un petit peu fait le tour aussi parce que c'est un très beau siège pour apprendre le métier, celui d'animateur là-bas. J'en ai profité pendant longtemps. J'ai comme travaillé dans un environnement de travail professionnel. J'ai découvert plein de monde super compétent.
Oui,
aussi.
Les gens sont très gentils là-bas.
Oui, autant l'équipe que les gens qu'on recevait comme invités. Mais je me dis que ce siège-là, il était aussi temps que je le laisse à quelqu'un d'autre qui puisse en profiter, tu sais, puis l'utiliser pour comme tremble. Je trouvais que c'était un bon moment pour le faire avant qu'on rentre dans un rush olympique puis un rush paralympique.
Est-ce que tu sais quel sport tu vas commenter?
Oui, comme je l'avais fait à Tokyo, toutes les épreuves de pelouse, donc les lancers du marteau, disque.
Oui, je me souviens de ça.
Javelot, marteau, disque, javelot, saut en hauteur, saut en longueur, triple saut.
Je t'avais écouté juste parce que c'était toi, en fait, et j'avais appris sur la lancée du javelot quand même.
C'est des sports assez intéressants, pour vrai. Puis c'était c'est une première expérience de description pour moi. Puis c'est comme c'est des sports très cadencés où, tu sais, c'est un athlète à la fois. C'est un bon environnement pour commencer de la description sportive.
Oui, c'est sûr que de faire du hockey.
C'est ça.
J'y connais rien, mais faire du hockey, ça doit être plus difficile. Là.
Par exemple, tu sais, les sports où c'est vraiment un sport cadencé, là, ça va être plus compliqué. Fait que là, t'as un athlète à la fois et tout ça. Fait que j'avais bien aimé ça, puis j'ai hâte de recommencer parce que c'est quand même de beaux sports. Ce qui est cool, c'est qu'on va. Très probablement, je touche du bois, mais mon collègue Niels Oliveto et moi, décrire des médailles et peut-être même une médaille d'or olympique pour le Canada.
Oh!
Parce qu'au dernier mondiaux d'athlétisme, les deux personnes qui ont remporté l'épreuve du lancer du marteau, autant chez les hommes que chez les femmes, ce sont les Canadiens Ethan Katzberg et Cameron Rogers. Ils sont en pleine ascension. Fait qu'on a c'était le fun à Tokyo, mais les performances des Canadiennes étaient moins là, sauf Damien Warner, qui a remporté le décathlon. Là, on risque d'avoir plusieurs médailles dans plusieurs disciplines, fait que c'est super excitant.
Donc, quand même, vos espoirs sont hauts. On veut pas mettre de pression à personne.
C'est ça. Ethan Katzberg, là, si tu nous écoutes, non, compte sur toi.
Il m'écoute à toutes les semaines.
Ben, c'est adressé difficile à travers le Canada, je pense, Canaline. On est à travers le Canada.
On est partout. On est dans le monde entier, Kevin. Et tout le monde sait à quel point je suis rendu une vedette. Donc, j'imagine, là, comme écoute, jusqu'en Australie. Bonjour, Australie.
Ouais.
C'est sûr que bon, mon accent est à revoir, là, mais bon.
L'accent australien.
C'est un détail, je travaille à tous les soirs sur YouTube. Sinon, maintenant que tu es journaliste, que tu travailles pour Radio-Canada, est-ce que tu as d'autres rêves ou d'autres étapes que tu veux pour ta carrière? Dans 10 ans, tu te vois où au niveau du journaliste, Kevin?
Je pense que je me vois même plus en journaliste dans 10 ans.
Tu t'en vas où?
Idéalement, tu sais, comme moi, j'aimerais ça dans un horizon pas si lointain. J'allais dire prendre ma retraite, mais tu sais, j'aurais pas les moyens de faire ça, là, mais j'aimerais ça être loin de la ville, avoir un jardin, juste écrire à temps partiel sur des projets.
Oh.
Fait que, tu sais, j'apprécie énormément l'expérience journalistique que j'ai à Radio-Canada en ce moment. J'en apprends vraiment beaucoup sur le journalisme. C'est un super environnement de travail. Sauf que j'ai pas envie, tu sais, j'ai pas des grandes ambitions de faire des documentaires, de couvrir l'international, tu sais, je suis bien dans ce que je suis en ce moment, je profite à 100%, mais j'aimerais ça un jour rentrer dans des terres que je ne possède pas encore, parce que le marché fait que c'est difficile d'avoir des terres en ce moment, mais rentrer dans mes terres, avoir une maison, un jardin, écrire à temps partiel, avoir une longue barbe, peut-être brasser ma propre bière.
Avoir une longue barbe et brasser ma bière.
Oui, puis de pas avoir à me couper les cheveux parce que je fais de la télé puis on me dit de me couper les cheveux, tu sais. Fait que j'aspire plus à ça, mettons, dans 10 ans.
Fait que ça te coûte cher de barbier, puis ça t'écœure.
Oui, mais je veux pas dire que c'est une des raisons pourquoi j'ai quitté Amidialé, c'est pas vrai, mais tu sais, là-bas, fallait que je me coupe les cheveux quand même régulièrement.
Il y avait quelqu'un qui checkait ses cheveux,
oui,
là.
C'est ça, on sortait la règle à tous les tournages, puis on mesurait. Non, c'est pas vrai, mais tu sais, on faisait de la télé, fait qu'on veut être...
Moi,
porter des chemises, j'haïs ça à mourir. J'aime ça être en t-shirt, j'aime ça avoir la barbe pas faite, avoir les cheveux défaits. C'est pour ça que je fais de la radio dans la vie.
Bon point, Kevin.
Mais là, on va avoir un shooting photo parce que je vais être co-chef d'antenne pour les Jeux paralympiques à Paris. C'est ça, un petit titre. Mais tu sais, on va comme animer ma collègue Geneviève et moi, Geneviève Tardif, les genres d'émissions de début d'après-midi, fin de soirée qui résument les Jeux paralympiques de la journée. Donc là, je vais devoir à nouveau être bien mis.
Est-ce que tu vas aller à Paris ou est-ce que tu le fais à partir de Montréal?
On fait presque tout à partir de Montréal, malheureusement. Donc, moi, je suis à Montréal pour les Jeux paralympiques. Tu sais, question de budget, un peu comme les Jeux olympiques, ici en remote, comme on dit. Donc, presque toutes les épreuves sont décrites de Montréal, de Pointe-Saint-Charles, dans un studio. Puis, il y en a quelques-unes qui sont décrites sur place et on a des journalistes qui sont aussi là-bas pour faire les entrevues dans ce qu'on appelle les mix-zones.
En même temps, l'accessibilité à Paris n'est pas encore prête, donc c'est peut-être mieux pour toi de ne pas y être.
Oui, c'est un enjeu. Les transports en commun, en général, à Paris, ils ont comme des doutes puis des craintes de est-ce que ça va être prêt? Les locaux sont comme... Il va quand même avoir un système de code QR pour passer d'une zone à une autre. Question de sécurité, très compliquée aussi à Paris. Puis ils l'ont dit, là, il n'y a pas longtemps, Emmanuel Macron a fait ses vœux olympiques. Puis on lui a posé la question sur l'adaptation des transports en commun, puis il a dit on sera pas pris. T'sais.
Oui, j'en parle, je travaille avec À Sans Détour, qui est une émission aussi à Canada, mais puis on en parle toutes les semaines, là, je fais l'actualité, puis ça, à toutes les semaines, on a quelque chose à dire là-dessus. Mm-hmm. On n'est pas au jour et on sera pas prêt, là, clairement.
Non, ben tu sais, je pense que c'était compliqué. Je sais pas, t'es-tu déjà allé à Paris?
Non, je suis passée à Paris en escale, mais je me suis pas beaucoup promenée.
C'est compliqué. Le métro a vraiment pas d'allure. Puis il est vieux, fait que c'est vrai que ça aurait été compliqué d'adapter le métro au complet. Mais quand il y a eu les Jeux olympiques puis paralympiques de Londres en 2012, il y avait une station de métro qui était vraiment ancienne et très, très profonde. Mais elle était juste à côté du village olympique et du village paralympique. Fait que là, le gouvernement britannique était comme ça, pas de bon sens, qu'on va faire venir les meilleurs athlètes handicapés au monde, mais on va leur dire, cette station de métro-là qui est juste à côté de où vous allez habiter, vous pourrez pas la prendre.
Oui,
c'est trop gênant, tu sais. Fait qu'ils ont comme mis, là, ça a coûté des centaines de millions de dollars pour adapter précisément cette station de métro-là.
Donc, il va en avoir une adaptée à tout le moins, mais...
Oui, mais à Londres, c'est pas si pire. Londres, c'est une des villes que j'ai vues où le métro était le plus facile à naviguer.
Oui, tu t'es quand même beaucoup promené en Europe, toi.
Ouais, un petit peu en Allemagne, Belgique, Paris, puis l'Angleterre.
Moi, je fais des escales, puis généralement, je vais pas trop loin de l'aéroport, moi, parce que je sens que je veux m'éviter des problèmes et être à l'heure pour mon prochain vol.
Mais tu t'en vas où quand tu fais escale en Europe?
Je travaille beaucoup en Afrique, moi. Je travaille beaucoup en Afrique de l'Ouest, donc on fait escale en Europe, puis c'est ça, j'essaie de pas me mettre dans le trouble, donc quand je sors de l'aéroport, j'essaie de rester pas loin, et souvent, je décide de pas sortir pour des questions d'accessibilité, justement. Parce que, de toute façon, hein, j'ai 6 heures d'escale, puis sur mes 6 heures d'escale, j'ai 4 heures à m'obstiner pour que le chien puisse aller faire son pipi. Donc, tu sais, il me reste 2 heures, faut que je sois là un peu de l'avance, donc ça me donne pas beaucoup de temps pour aller voir Paris et la Tour Eiffel, là. Donc, malheureusement, la plupart du temps, là, je passe ma vie à l'intérieur des murs de l'aéroport à m'obstiner pour des questions de chiens d'assistance, de fauteuils, de pipi de chien. Bon,
ça marche comment dans les aéroports? Est-ce qu'il y a comme des salles pour les chiens, pour leurs besoins? Ou vous devez...
Et la plupart du temps, ils n'ont pas de salles parce que, bon, on n'est pas rendu là, on est juste en 2024, Kevin. Donc, la plupart n'ont pas de salles et donc, on arrive en escale, ils ne veulent pas nous laisser sortir pour des questions de sécurité. Et donc, ils me disent que le chien ne pourra pas faire pipi, malheureusement. Mais bon, pour aller en Afrique, on parle de 20h, 22h. Le chien ne peut pas juste ne pas faire pipi. Donc, il faut que je m'obstine. Et souvent, ça dure 3-4 heures. Et le chien, bon, se serre les fesses à côté de moi.
Pauvre pisseau.
Je finis toujours par l'avoir parce que, bon, je suis quelqu'un de... De toute façon, j'ai pas le choix. Il faut qu'un chien y aille avant le prochain vol. Sinon, il va faire pipi dans l'avion. C'est pas de sa faute. À un moment donné, il peut pas se retenir à vitam aeternam.
Ah, c'est atroce. J'avais jamais pensé à ça.
Et donc, oui, à chaque fois, il faut que je m'obstine. Je dis, laissez-moi sortir avec quelqu'un de la sécurité. Au pire, sortez le chien sans moi. Le chien rentrera pas des bombes de lui-même. Là. Il est pas dressé à faire
ben
ça. Il faut me trouver une solution. Mais donc,
ben oui.
on finit par trouver quelque chose. Mais il a jamais de protocole d'établi. Ils savent pas quoi faire. Il faut s'obstiner. Souvent, j'ai pas dormi de la nuit, je me mets à pleurer, et là, finalement, ils finissent par trouver une solution, mais c'est toujours extrêmement compliqué. Pourtant, voilà, c'est en Europe, là, ça devrait être
ça.
Facile. Et j'arrive en Afrique, et ça se fait en 2 minutes, parce que justement, il n'y a aucun protocole. Je leur dis, le chien a envie de pipi, ils comprennent, ils mettent sur la piste, 2 minutes, c'est fait, on rentre. Donc, c'est toujours extrêmement compliqué.
C'est pas nouveau qu'il y ait des chiens à distance.
Non, ben, on me dit, ben, voyons, on en avait un la semaine dernière, puis je suis comme, oui, ben, vous en aviez un la semaine dernière, vous avez fait quoi? Donc c'est quelque chose qui est très très mal organisé et même tu vois à Washington par exemple il y a effectivement une salle avec du faux gazon là pour les chiens mais elle est à l'autre bout de l'aéroport ce qui fait que tu fais 20 minutes d'autobus pour te rendre, c'est mieux que rien, mais c'est pas super adéquat non plus. Tant qu'à faire une, il faudrait y penser. Mais au moins on a une salle, mais pour le reste, c'est extrêmement complexe. Donc,
me disais qu'aux États-Unis, avec le ADA, ce serait sûrement mieux. Donc,
la seule que j'ai vue à date, c'est celle de Washington. Et pourtant, je suis passée aux États-Unis quand même beaucoup. Mm-hmm. Et les autres, ben, même chose. Hein, en question de sécurité, on peut pas sortir un chien, blablabla. Et là, il faut expliquer qu'on veut bien suivre les questions de sécurité, mais que le pauvre chien, sécurité ou pas, il va finir par... en Belgique, on m'a dit, l'année dernière, en Belgique, je pleurais. Puis ça faisait exactement 4h30 que je m'obstinais. Et la dame m'a dit, faites-lui faire pipi sur le plancher des toilettes.
Ben oui,
là, j'ai dit oui, mais non. Mon chien est dressé à ne pas faire ça. Il ne voudra pas faire ça.
Ben ouais.
Et ça ne règle pas le problème. Après, il va falloir commencer. Et les gens, bon, c'est pas adéquat pour les dames qui passent pour aller aux toilettes, évidemment. Et c'était ça la solution. Jusqu'à temps qu'un monsieur très, très haut gradé, un pilote, là, avec toutes les grades sur son manteau, vienne me voir et m'a dit écoute, moi, je vais y aller. Je te vois pleurer depuis 1 heure. Je vais, moi, sortir le chien. J'ai les accès. Il n'y a personne qui va m'arrêter. Et là, j'ai dit, mon cher monsieur, c'est pas à vous de faire ça. Puis il dit, oui, mais bon, ça fait 4 heures que t'es là. C'est pas moi qui le fais, personne va le faire.
Oh,
donc, il est
Dieu.
Parti avec un petit sac. Il est allé faire ça. Il est revenu 20 minutes après avec mon chien tout content, prenant la queue. Très gentil monsieur, mais c'est ça. Il a fallu qu'un pilote très haut gradé se décide à faire quelque chose. Parce que ça faisait 1 heure que je pleurais. Et que la réponse était, ben, fais-lui faire pipi dans les toilettes. Mon chien ne voudra pas faire ça.
C'est incroyable.
Et ça réglera pas le problème, c'est pas adéquat là, pour les gens qui sont là, évidemment. C'est pas une réponse, mais c'est la seule réponse que j'ai eue en quand même 4 heures. Et on était en Belgique, on n'était pas à l'autre bout du fin fond d'Afrique. Là.
Non, ça me mettrait tellement...
J'étais fâchée, mais souvent, voilà, quand je voyage, moi, j'ai quand même une petite soupape de colère là, à sortir.
Ouais.
Je finis tout le temps un peu fâchée. Là. C'est tout le temps
ouais,
très, très, très compliqué. Je m'obstine tout le temps pour plein de choses. Quand c'est pas le chien, c'est la chaise roulante et tout. Comme s'il avait jamais vu une chaise roulante dans un avion. Toutes les fois, ça arrive. Donc, les gens qui voyagent avec moi, j'ai averti d'avance ça. On va prendre minimalement 2 heures là, pour gérer la chaise roulante et les chiens. Prépare-toi. Quand j'ai quelqu'un avec moi, surtout quand j'ai un homme avec moi, ça va mieux. Parce que lui, écoute, lui a un certain prestige. Moi, il me regarde un peu de haut puis il m'écoute pas jusqu'à temps que je me mette à pleurer.
Penses-tu que le fait qu'on est handicapé aussi...
Clairement. Par exemple, en France, la vision des personnes en situation de handicap là, est quand même difficile. Là. Ils ont encore beaucoup de préjugés. Et tu sens là, dans la façon qu'ils s'adressent à toi que t'es en situation de handicap et qu'ils le considèrent dans leur façon de te parier. C'est triste, mais c'est ça. Et le fait d'être femme, on pourrait comparer, mais peut-être que le fait d'être femme en situation de handicap m'aide absolument pas non plus. Peut-être que pour les hommes en situation de handicap, c'est un peu moins pire. Mais clairement, une personne en situation de handicap, là, essayer de faire valoir tes droits, c'est très difficile, mais tu l'as vécu aussi. Les gens s'adressent à la personne à côté de toi au lieu de s'adresser à toi. Là. T'es comme bonjour, vous pouvez vous adresser à moi. Là. J'arrive à Paris, merci.
C'est un classique.
C'est un beau classique.
Moi, j'ai pas de chien d'assistance, mais les aéroports en général, j'essaye de les éviter quand même aussi. Parce que.
Tu fais ça en nage?
Ben non, mais mettons, quand je vais. Mais tu sais, mettons, à chaque été avec mes amis, on fait un voyage de sport. On va voir du baseball souvent. Puis là, on commence à avoir tout fait ce qu'on peut faire en voiture. T'sais. On se rend jusqu'à Philadelphie.
Ouais.
La prochaine étape, ce serait de prendre un avion pour aller plus loin. Mais moi, ça me tente pas.
Ouais, c'est ça,
que...
ça me tente pas. Moi, j'ai bien
d'aime
ça.
J'ai peur de le perdre. Ça me... Puis on n'est pas. Bah, tu sais, moi, je suis plus petit aussi. Fait que le siège par défaut dans un aéroport, je suis pas confortable.
Il convient pas,
Je suis vraiment pas confortable dedans. Si je vais aller aux toilettes pendant un vol,
c'est compliqué aussi,
Fait que j'aime pas ça, prendre l'avion. J'essaie de le prendre le moins possible.
Fait que tu mets du kilométrage sur ton char.
Ouais, c'est ça. J'aime mieux prendre.
Mais moi, ça me rend un petit peu anxieux. J'ai le kilométrage sur ma voiture qui est louée. Donc, je prends l'avion. Mais peut-être que je devrais faire comme toi. Je vais y réfléchir. Sinon, on peut peut-être revenir un peu. On est parti tout de suite sur les anecdotes puis sur ton travail de journaliste. Mais si on revient à toi, on a compris évidemment que tu es en situation d'handicap. Là, c'est pour ça que tu es ici. Est-ce que tu veux nous parler un peu de ton diagnostic?
Moi, c'est le nanisme dystrophique, ce qui est marqué sur mon diagnostic médical. c'est une maladie rare. Je me rappelle plus l'incidence. Là, je pense que c'est 1 sur 1,3 million, tu sais, les probabilités d'avoir cette maladie-là. Ouais. C'est une maladie rare, très très rare, donc ce qui fait que j'ai les membres plus petits, je me déplace en fauteuil roulant pour des questions de cuisses et de genoux barrés. Là. Mon genou et ma cuisse ne déplient pas complètement, pour vous faire une image, ceux qui ne me voient pas. Fait que les problèmes d'articulation en général, dans les doigts aussi, dans le cou qui se tourne moins. Ce qui fait en sorte que je suis beaucoup plus confortable, beaucoup plus à l'aise d'être dans un fauteuil roulant. Un fauteuil roulant manuel que j'utilise depuis le secondaire, depuis la fin du primaire, je pense.
Okay.
Avant ça, c'était un peu plus comme avec des marchettes, puis des fauteuils temporairement. Puis j'ai adopté le fauteuil roulant temps plein en secondaire 1 et never look back. Là, c'est comme, ça a vraiment été une libération.
Oh, c'est une libération, quand même.
Ben oui.
C'est rare qu'on dise ça, mais dans ton cas, je me dis que ça venait avec des douleurs.
Tu sais, c'est pas confortable. Je marchais croche, je pouvais pas faire des longues distances.
C'est pas toujours sécuritaire non plus.
C'est ça,
hein. Tu peux te péter la fiole, pas pire. Hein.
Tout à fait. Puis pour des questions d'efficience, d'efficacité, là, c'est beaucoup plus rapide.
Oui, clairement.
En fauteuil, fait que. Non, c'est ça, mais là, il est dû, ce fauteuil-là. Ce fauteuil-là est allé en Europe. Il y a comme 10 ans, ce fauteuil-là.
Il y a de l'usure, là.
Il y a vraiment de l'usure.
As-tu commandé ton nouveau fauteuil?
Oui, mais je savais pas que c'était 6 mois. Je l'ai commandé.
6 mois? Moi, tu vois, moi, j'étais 3 ans.
Mais toi, c'est un fauteuil motorisé?
Non, moi, c'est un fauteuil manuel. Moi, pendant la COVID, là, c'était 3 ans, j'en ai acheté un. Merci aux assurances de l'UQAM.
Oui,
j'ai passé sur les assurances de l'UQAM parce qu'on me disait 3 ans, tu vois.
Ah ouais, fait que t'en as acheté un par toi-même puis tu t'es remboursé par des assurances.
Oui, un beau là, qui vaut cher. Merci aux assurances de l'UQAM. Je me suis rendu compte après 6 ans. 6 ans de. En fait, c'était avec mon quadriporteur, j'ai beaucoup d'anecdotes de quadriporteur quand mon chien, ma première chienne d'assistance, Sonny, est décédée très subitement. Du jour au lendemain, j'étais plus capable d'aller du tout faire l'épicerie. Et j'habitais seule à Montréal, et donc ça causait un problème. Je me suis acheté donc un quadriporteur, puis là, ça fonctionnait pas. Le quadriporteur a explosé littéralement, a commencé à faire des fumées très très noires au milieu du Super C. littéralement, en plein hiver, évidemment. Donc il a fallu que je pousse le quadriporteur de 300 livres. En hiver jusqu'à la coopérative, c'était pas très loin là, c'était quand même 4 rues, mais 4 rues c'était dur. Évidemment, personne m'a aidé. Je poussais un quadriporteur de 300 livres que j'avais mis évidemment sur un œuf, mais quand même. Et donc après, j'en ai racheté un là, en vitesse sur Kijiji, mais la batterie était pas assez forte, donc il arrêtait. Et encore une fois, je poussais. Ça a été un bel hiver dans ma vie. Ok, si vous m'avez vu pousser sur Ontario. C'était moi. Plus que des fois.
Deux services de towing.
Plusieurs fois, parce que le petit quadriporteur n'arrêtait pas d'arrêter. La batterie n'était pas assez forte dessus. Et je me promenais avec hiver à l'extérieur, ce qui demande beaucoup une batterie. Ce qui fait que j'ai poussé littéralement tout hiver. Et après 6 ans à l'UQAM, quand même, je me suis rendu compte que j'avais des assurances et que ça passait sur mes assurances.
Ouais.
Donc, première dépense, j'ai acheté un quadriporteur neuf qui était capable d'être conduit hiver sans exploser nulle part. Il n'a toujours pas explosé, Kevin, alors qu'il est. Gros quadriporteur avec beaucoup de puissance qui n'arrête pas nulle part.
Fait que tu utilises parfois ça et parfois un fauteuil manuel.
Oui, j'utilise le quadriporteur autour de chez moi, en fait, là, pour promener les chiens, pour tu sais, j'essaie de pas trop utiliser mon véhicule le moins possible, donc pour aller à l'épicerie pas trop loin, tout ça, j'utilise chaque reporter. Par contre, chaque reporter, je peux pas la porter dans mon véhicule. Mon véhicule n'est pas adapté. Ouais. Encore une fois, pour des questions d'efficacité, adapter un véhicule, c'est difficile.
Ça prend
beaucoup de temps. Et moi, mon véhicule, j'ai pas besoin d'adaptation pour le conduire. Et j'aimais pas à ce moment-là des véhicules neufs, hein, sur la part de... Ouais. De scraper en bon français mon véhicule là, si j'avais un accident. Et donc je me promenais avec des minounes, comme on dit. Et donc ça peut pas être adapté non plus, donc quand j'avais besoin de me déplacer, je mettais la chaise roulante manuelle dans mon véhicule. Et c'est mon chien qui est capable de tirer la chaise roulante manuelle parce que j'ai pas de force au niveau des bras. Donc c'est le chien qui tire.
Et t'étais capable de mettre ton fauteuil manuel toi-même dans...
Je suis rendu bien bonne.
Ah ouais, dans valise, genre.
Je suis rendue pas bien bonne pour ça. Au début, c'est difficile. Après, tu te fais des muscles. Mais encore une fois, là, pour des questions d'efficacité, t'es mieux d'aller apprendre tout seul que d'attendre après quelqu'un. Donc, j'ai littéralement appris à le faire.
Tu le plies ou...
Oui, je le plie. C'est un fauteuil qui se plie.
Un peu comme le mien.
Oui, donc je le mets. C'est quand même lourd. Et mon fauteuil, c'est ça. Mon fauteuil était très lourd. Était très, très, très rouillé. J'avais le même fauteuil depuis l'âge de 12 ans quand même. Et je l'ai changé l'année dernière. J'ai 30 ans. Et quand je suis allée à Mira chercher mon deuxième chien, Mira m'a dit, écoute, ton fauteuil, ça a pas de bon sens, il est extrêmement lourd, il y a pas au chien, il y a de difficulté à le tirer, mon chien est pas, c'est pas un chien de course, là. C'est un chien un peu, paresseux. Contrairement à mon premier chien, Sonny, qui avait beaucoup plus de garde, donc on le voyait pas avec Sonny parce qu'elle tirait mieux.
Ouais.
C'est ça. Il disait, oui, mais ton fauteuil est très lourd, c'est très difficile, il est tout rouillé, ça marche pas, change donc de fauteuil. Et là, bon, j'ai fait les appels, on m'a dit, bon, ça va prendre 3 ans. J'ai pensé à l'UQAM, et là, je me suis dit, mon Dieu, j'ai encore payé ma session à l'UQAM, cette session-ci. Dieu merci, je vais prendre les assurances. Et donc, j'aurais fait payer un joli fauteuil. Donc, j'ai vraiment rentabilisé mes assurances, si tu veux le savoir, Kevin.
On est chanceux quand même parce que, tu sais, moi aussi, je suis dans ça, là, les délais pour les aides techniques, fauteuil manuel, adaptation des véhicules, puis il y a des énormes délais, puis il y a des coûts d'associés à ça.
Ah, c'est horrible.
Quand on pense au surcoût que les personnes handicapées doivent débourser, moi, quand j'ai ouvert mon dossier au programme de conduite automobile à Constance Lethbridge pour faire adapter un auto, bientôt parce que là, mon char en ce moment, il tombe un peu en pièces, donc je prévois m'en acheter un autre. Je dois faire remplir 3 formulaires.
Oui.
Un par moi-même, un par mon médecin de famille, puis un par une optométrice. Mais ces formulaires-là, faut qu'on paye pour les faire remplir. Par... Fait que mon médecin, je suis allé la voir, j'ai attendu 2 heures dans son bureau, elle dit « Ben oui, t'es encore handicapé.
Oui. »
Elle a marqué « handicapé » sur son papier, c'est tout. Là. Puis elle a rempli le formulaire, 150$ que j'avais payé. Oui. Même chose pour l'optométrice, 120$ que je devais payer. Mais tu sais, moi, j'ai quand même un bon travail.
Oui, t'es riche, tu travailles pour Radio-Canada, ça va bien.
Tu sais, je peux me le permettre. Même chose pour voir un ergothérapeute, pour adapter mon véhicule. On me dit que c'est les délais qui peuvent être 4 à 6 mois encore.
Oui.
Sauf que si je vais au privé,
c'est ça.
Je vais payer 300$ peut-être, je peux me le permettre. Je vais en voir un dans la semaine.
Mais ça vient de te coûter 1000$.
Ça vient de me coûter 1000$. Tu sais, ça me coûte vraiment cher. Je peux me le permettre, mais tu sais, je pense à d'autres personnes qui ont autant besoin de moi qu'un véhicule, qui ont autant besoin de moi d'un fauteuil roulant efficace, mais qui n'ont pas les moyens de ça parce qu'ils n'ont pas de bonne assurance ou qu'ils n'ont pas de
bon emploi. C'est difficile quand même pour les personnes en situation de handicap, même s'ils sont extrêmement compétents d'avoir des emplois à la hauteur de leur talent.
Ouais.
Malheureusement, et on pense pas à ça comme société, on pense que toutes les personnes en situation de handicap sont sur le bien-être social, là, à jouer au bingo.
C'est un peu un cercle vicieux. C'est difficile de se trouver une bonne job si t'as pas de char pour passer des entrevues.
Oui,
puis arriver à l'heure. Fait que, puis tu sais, prendre un transport adapté, là, ça fait que ta journée de travail, au lieu de durer 8 heures, ben c'est 1 heure de plus le matin à attendre, 1 heure de
minimum,
plus.
Minimum, ça, c'est quand ça va bien. Parce qu'on peut en parler longtemps du transport adapté, Kevin. On a eu quand même quelques anecdotes, là, je suis sûr que t'en as eu aussi.
Je l'ai jamais pris.
Oh non!
Je suis chanceux dans la vie, j'ai un char.
Oui, moi, à Montréal, j'avais pas de véhicule parce que déplacer mon véhicule à Montréal là, pendant les tempêtes et tout, je me disais non, on va laisser faire. Mais oui, souvent, un transport qui n'arrive pas
ben,
qui s'est jamais présenté ou un transport qui est en retard d'une heure, 2 heures, ça arrive de façon régulière. Et donc, moi, j'avais des examens et j'arrivais 2 heures de retard à mes examens de façon très, très souvent. Là. Et pour eux, c'était tout à fait normal. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai déménagé en banlieue, en fait, et que j'ai acheté un véhicule à ce moment-là, parce que ça n'a aucun sens. C'est là, bon, il faut que tu réserves 24 heures à l'avance. Et là, bon, il y a toutes sortes de restrictions. Ouais. C'est, bon, des coupes budgétaires, donc pas la fin de semaine, pas le soir, certains jours. Voilà. Et donc, finalement, tu t'envoies à une fête, tu sais pas à quelle heure tu termines, mais il faut que tu aies ton transport adapté. Donc, tu te dis, bon, ben, à 9h30, moi, faut que je parte.
C'est ça. C'est
donc, c'est très, très difficile. Ça, c'est quand le transport se pointe. On pourrait en parler longtemps. Mm. Donc, oui, moi, c'est pour ça que j'ai déménagé et que j'ai acheté un véhicule. Parce que ça avait aucun bon sens, mais bon, il y a des gens qui, pour différentes raisons, ne peuvent pas avoir de véhicule ou habitent à Montréal, puis décident de pas en avoir parce que justement, c'est très compliqué au niveau du stationnement et tout ça. Et on peut pas se stationner à 8 rues de chez nous puis marcher. Là, pour la plupart d'entre nous, c'est pas possible.
Moi, j'aime pas beaucoup ça, prendre mon auto. Je me résous.
Oui.
Je me résous.
Tu te résous.
Je regarde Mathieu, mon prof de français, à le prendre. Parce que souvent, c'est l'option la plus facile. Mais je me suis aussi acheté une petite roue motorisée. C'est 5 000 $.
J'ai essayé, mais moi, j'ai pogné dans la neige avec toi.
Ah ouais, c'était laquelle modèle? Il y a Firefly, il y a Tree Ride.
Non, je pense que j'avais pris un modèle, tu sais, quelque chose qui était moins cher et beaucoup moins compétent. Là. C'était ça aussi.
Ça se peut, parce qu'il y a aussi la RAMQ qui est en offre, la régie. Moi, c'était une roue motorisée assez puissante quand même, mais tu sais, je l'utilise pas vraiment dans la neige. Sauf qu'avec ça, je l'installe sur mon fauteuil. Puis je me rends au travail, ça me prend 25 minutes, je paye pas de stationnement, j'attends pas le transport adapté.
Au moins, elle restait prise. En dehors de la neige, elle restait prise, elle arrêtait, c'était très, très difficile. Okay. Mais peut-être que j'avais pas le bon modèle, effectivement, Kevin.
Ouais.
D'où le fait que j'ai acheté un 4x9
ouais.
Et que j'ai réglé le problème. Ah oui, c'est une bonne option, moi aussi, j'y avais essayé. Puis probablement qu'avec le bon modèle... Ça marche bien. Maintenant que j'ai un 4x9, un chien, moi à l'époque, c'est parce que j'avais plus de chien.
Ouais.
J'attendais mon nouveau chien. Et là, le COVID est embarqué et tout ça. Et donc, j'ai attendu mon chien pendant presque 3 ans.
Mais avec ton chien, mettons, est-ce que des fois, tu fais des longs trajets? Mettons que tu dois faire...
Ben, lui, c'est la version très paresseuse du chien Mira. Là.
Okay.
Il aime pas tirer, il aime pas marcher. Donc, c'est peut-être un peu plus difficile avec lui. Avec mon autre chien qui avait plus de gaz, avec Sony, on pouvait faire un 2 heures là, de traction. Elle tirait. Elle m'a sorti du trouble une couple de fois là, à 42 $, mais alors que j'avais besoin de quelque chose, que mon téléphone avait brisé, puis que là, j'avais besoin d'avoir un nouveau téléphone tout de suite pour appeler quelqu'un. Donc, elle me sortit des problèmes plusieurs fois, mais oui, un chien comme ça, elle peut faire une bonne heure facilement. Notre chien, il tente pas beaucoup. Il faut l'encourager, il faut le prendre sur une bonne journée, mais un coup mal pris, il va le faire parce qu'il m'aime bien. Oui,
quand tu dis mal pris, c'est mettons dans un banc de neige, je vais t'aider.
Il va m'aider dans un banc de neige, il va m'aider si sa jouante tombe sur le côté.
Ah ouais, il va comme être capable de
te relever. Moi, il est capable de me relever, il est pas capable de relever sa jouante, ça faut pas trop y en demander.
Ah ouais.
Quoi que ma jouante est à carbone, et tout à fait, genre.
Ouais.
Mais il le ferait pas, mais oui, moi, il est capable de me relever. Tu vois, Shani, à l'époque, comme je te disais, là, j'étais, par exemple, à l'île du Prince-Édouard, le téléphone tombe par terre, il explose, et là, je suis pris au milieu de nulle part, il faut que j'appelle quelqu'un pour venir me chercher, mais je n'ai plus de téléphone. Et donc, on avait fait une grosse heure aller, puis une grosse heure retour pour aller dans un magasin grande surface pour aller me chercher un téléphone.
C'était où, à l'île du Prince-Édouard? Je suis allé il y a 2 ans.
C'était à l'université de l'île du Prince-Édouard. Okay. Dans la capitale, là, toute université très, très, très sympathique. Mais si tu veux savoir...
À Charlottetown.
À Charlottetown, effectivement. Mais en 5 semaines, j'avais pété 6 téléphones. Parce que j'avais une pochette là, sur mon chandail, une poche, et je mettais mon téléphone dedans. Et quand je me pensais, c'était systématique que le téléphone tombait. Et moi, je me disais, bon, acheter un case pour mon téléphone, bon, ça coûte 20$, j'ai pas rien que ça à faire, payer 20$, donc j'ai payé 6 téléphones.
Toi, tu l'aurais rentabilisé assez rapidement.
Je l'ai rentabilisé, j'ai un ami qui me l'a payé, avec un petit gant, via 20$, parce que 6 fois, littéralement, je suis parti vers ce magasin-là avec Sony pour faire 1 heure de route, pour aller chercher un nouveau téléphone à cet endroit-là, où je connaissais personne à Charlottetown à ce moment-là. J'allais là pour une session d'études. Donc, j'avais fait 6 fois, dont une fois à 42, il faisait très, très, très chaud. C'est quand t'es mal pris comme ça que tu remercies ton chien d'être là.
Ouais.
Alors, elle a tiré jusqu'au bout, elle était fatiguée, morte, avait besoin d'eau, évidemment, je lui ai donné de l'eau et tout ça, mais elle était très, très, très fatiguée, mais on s'est rendu.
Ouais.
Elle s'est pas piscinée du tout. Ça, c'est de la loyauté. Hein.
C'est ça, puis c'est comme des chiens... qui ont comme le besoin du sentiment du devoir accompli.
Oui, clairement, pour eux, c'est un jeu. Hein, ils veulent te faire plaisir. C'est vraiment comme ça qu'on éduque les chiens Mira. Les gens pensent qu'on les maltraite. Là, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout le cas. Pour mon chien, c'est un jeu. Ouais. Donc, on prend des chiens qui adorent faire ça, qui veulent être récompensés, qui sont contents de te faire plaisir.
Qui aiment les défis.
Tu es fiat, tout ça, ils aiment ça. Un chien qui ne veut pas travailler, qui trouve pas de plaisir à le faire, ben, il envoie à la retraite.
Ils se ramasseront pas, là, ouais.
Il envoie à la retraite, il va aller vivre une belle vie à la retraite, parce que de toute façon, ça fera jamais un bon chien.
Ouais, ouais, je comprends.
Donc, personne n'est gagnant. Et même si tu voudrais obliger un chien à le faire avec des méthodes violentes, par exemple, ça fera jamais un bon chien. Ça fera jamais un chien qui est loyal, il va le faire à contre-cœur, il te fera pas bien, il va le faire à moitié, ça marche pas de toute façon. Donc quand un chien ne veut pas le faire, quand il est pas assez motivé par l'amour que tu lui donnes, quelques croquettes là, au fond d'une poche à l'occasion, il faut changer de chien. On envoie le chien à la retraite et on reprend un autre chien. Mira, ils font de l'entraînement, donc ils le savent au début de l'entraînement si ça va marcher ou pas avec le chien. Quand ça marche pas, ils envoient, ils en prennent un autre et ça vient de terminer comme ça. Donc oui, le chien est motivé par le fait de faire plaisir, en fait.
C'est comme leur vocation.
Oui, c'est une vocation pour eux, c'est un jeu pour eux. Mon chien, moi, au lieu de ramasser des balles par terre, ben, il ramasse une bouteille d'eau. Mais pour lui, c'est la même chose.
Ouais.
Ou il ramasse mon téléphone quand je lui échappe. Mais pour lui, c'est exactement la même chose que pour les chiens domestiques qui ramassent une balle.
Tu l'emmènes-tu partout?
Oui, je l'emmène partout. Ouais. Un chien, Mira, va partout. Ils n'ont pas le droit de nous refuser, à moins...
Mais mettons que... Est-ce que je comprends qu'ils sont admis partout, mais est-ce que des fois, tu dis, je m'en vais à une fête d'un ami pas loin,
je l'emmène partout, tout le temps.
Ouais.
C'est la règle chez Mira, à moins, évidemment, d'avoir des circonstances
okay. Mais Mira recommande qu'on les emmène partout.
Oui, recommande très, très, très fortement qu'on les emmène partout, à moins d'avoir une situation, par exemple, où tu es hospitalisé.
Ouais.
Là, moi, j'y avais avec moi, par exemple... le jour où j'avais avec moi, mais le soir, quelqu'un partait avec le chien pour la nuit, parce que là, évidemment, c'est compliqué. Moi, je suis ramorphine BRN, là, fait que je vois des étoiles. Le chien, bon, il faut le sortir, tout ça, c'est un peu complexe. Ou, par exemple, à un moment, je suis allée dans un spectacle au Centre Bell, spectacle qui... Je me disais, là, ça marchera pas, là. Clairement, ça marchera pas. Même chose pour les Alouettes de Montréal, hein. Rappelle-toi comment c'est fait là-bas. C'est déjà allé. Niveau accessibilité, moyen.
Ouais.
Je me suis dit, emmener un chien là-dedans. Oublie ça. Donc, j'ai laissé à contre-cœur derrière moi, mais, dès que, tu sais, avec Sonny, c'est arrivé, deux ou trois fois. Avec Norton, c'est pas encore arrivé. Je le fais vraiment, vraiment à contre-cœur. Il me manque quelque chose. Je suis pas bien.
Et
le chien est pas bien non plus. Le chien pleure, il tourne en rond, il sait pas où c'est. Même quand je vais le garder par quelqu'un, parce qu'idéalement, on le fait garder, on le laisse pas tout seul. On peut le laisser seul dans une pièce, il détruira rien, mais il va pleurer, il va tourner, tout ça. Donc, vraiment, c'est vraiment dans des cas exceptionnels. Sinon, il vient avec moi. Ça vient avec. Je choisis mes sorties en fonction du chien. Quand mes amis vont dans un bar puis que je me dis ouf, ça c'est pas une bonne idée. Moi les clubs, hein, on oublie ça, là. Du monde qui danse partout, puis les bières sur la tête du chien.
Puis les Alouettes aussi, que le bruit qu'il y a là-bas, il y a des trompettes.
Mais le chien, le bruit, ça va.
Ça va?
Il est très correct sur le bruit. C'est vraiment au niveau de l'accessibilité, c'est l'enfer. Puis de toute façon, je suis allée aux Alouettes une ou deux fois dans la vie, j'ai arrêté ça. Je me suis acheté une grosse télé.
Ah ouais, c'est plus. Moi, tout le sport, j'aime bien
ça
regarder chez
ça va beaucoup mieux, parce que de toute façon, à les Alouettes de Montréal, là, t'es en arrière. Là. Les endroits qui sont adaptés, c'est en arrière du poteau. Là, vraiment en haut. Donc, tu vois de toute façon absolument rien.
Ouais, c'est pas l'idéal, le Stade Percival Molson. C'est hit or miss, là, je dirais. Es-tu allé au Centre Bell voir le Canadien, des fois?
Non, je suis pas allé voir le Canadien, mais je suis allé voir des spectacles. Je suis pas une fan de hockey. Je suis allé voir des spectacles, mais...
Même si t'aimes pas le hockey, ça vaut la peine pour l'expérience, parce qu'au Centre Bell, les billets, la section pour les fauteuils roulants sont quand même près de la glace. T'sais, tu es bien situé, tu vois bien.
J'essaierai ça, Kevin. Je te le conseille. Nouvelle, merci.
Ouais.
Kevin, je voudrais aussi parier avec toi. Justement, là, du fait d'être une personne en situation de handicap, là, dans la vie de tous les jours, les défis que ça amène, tu deviens un peu là, un représentant là, des personnes en situation de handicap. Il faut souvent que tu expliques, que tu fasses de l'éducation populaire un peu contre toi, des fois un peu à l'épicerie aussi. Là, il faut que tu interviennes à l'épicerie. Comment tu vis avec ça, toi?
Ouais, ben, tu sais, au début aussi, puis comme là, souvent, on dit que je suis comme un militant de l'accessibilité universelle, parce que je soulève des inégalités, des situations discriminatoires
oui.
que des personnes handicapées vivent. Puis j'en suis vraiment à me demander en ce moment, est-ce que ça fait de moi un militant de constater des inégalités?
C'est,
t'sais? C'est pour ça qu'à chaque fois qu'on me dit, puis tu sais, il y a beaucoup de gens qui font ça, là, que je suis un militant, c'est parce que c'est un terme qui est très peu compatible avec celui de journaliste.
Oui.
Puis dans la vie, je me décris je me décris plus comme un journaliste, même si je fais du journalisme sportif qui a rien à voir avec
les questions politiques
ouais,
ou de,
souvent
de,
des questions
de discrimination,
de politique sociale et de discrimination par rapport au handicap. Souvent, c'est deux mondes très loin. Mais généralement, on trouve que c'est assez incompatible ces deux domaines-là parce qu'on dit quand t'es journaliste, t'es neutre,
oui.
tu dois être le plus neutre possible. Sauf que, tu sais, être neutre, ça veut pas dire de pas constater quand il y a des situations
oui,
discriminatoires.
Il y a un problème, là,
c'est vraiment. Fait que c'est pour ça que c'est un équilibre qui est un petit peu difficile à trouver, dans le sens, est-ce que je devrais me fermer la boîte à cause de mon devoir de réserve et ne pas parler d'une salle de spectacle qui est inaccessible, d'une situation qui est désolante parce que j'ai un titre de journaliste?
Est-ce que c'est lourd de devoir éduquer les gens un peu partout, tout le temps? Est-ce que tu trouves ça lourd, toi?
Ben, ça va, je te dirais. Je le prends quand même assez bien, mais est-ce que c'est lourd? Ça, bon, je pense que je l'ai tellement intégré maintenant. Tu sais, j'ai 33 ans, 34 ans, puis j'ai un petit peu. Je pense que maintenant, j'ai comme une nouvelle maturité de. Moi aussi, j'ai été ignorant par rapport
beau,
à plein
ça.
De situations, tu sais. Il y a bien des trucs que j'ai moi-même été ignorant
oui.
par rapport à d'autres groupes marginalisés, par exemple. Puis, si j'ai été maladroit ou que j'ai posé une question, j'ai apprécié qu'on me réponde poliment.
Avec gentillesse.
Ouais. Fait que je pense qu'en retour, tu sais, s'il y a des manques de délicatesse, ben j'essaie
t'es
de...
T'es prêt à y accepter.
Ouais. Fait que tu sais, je peux le faire gentiment. Puis si la maladresse se poursuit, puis qu'il y a comme un peu de... d'acharnement qui se fait dans la maladresse, ben je vais juste sourire puis passer à autre chose. Puis ça va plus peut-être autant gâcher ma journée que quand j'étais peut-être plus dans la mi-vingtaine où j'avais plus de frustration.
Oui.
J'étais plus frustré par rapport à tout.
On est peut-être moins solide aussi là, comme personne.
Ouais.
On accepte peut-être moins l'handicap ou même si on l'accepte bien, peut-être que c'est le regard des autres,
ouais.
la façon dont les autres nous traitent qu'on accepte moins.
Oui, peut-être que ça pesait plus lourd à l'époque puis que là, ben, t'sais, de toujours devoir expliquer c'est quoi, pourquoi je devrais avoir accès à une rampe d'accès, t'sais, pourquoi je devrais avoir accès aux mêmes choses que tout le monde.
Parce que clairement, ça prend un essai là, pour comprendre pourquoi on a besoin d'une rampe
c'est
d'accès.
C'est ça, hein. Fait qu'avant, peut-être que ça m'exaspérait un peu plus. Puis maintenant, on dirait que c'est plus je vais répondre. Puis je vais pas me bander avec ça si jamais c'est compliqué. Tu sais, je vais juste passer à autre chose dans la vie.
Parle-moi de ta meilleure conversation là, d'épicerie. Hein, que, ta meilleure anecdote avec quelqu'un qui était peut-être ignorant ou.
Ben moi, ce que j'aime bien faire, puis c'est vraiment rien contre les enfants, parce que les enfants, souvent, ils n'en ont pas vu des personnes handicapées.
Oui. C'est vrai.
Puis à Montréal, c'est peut-être un petit peu plus différent parce qu'il y a peut-être une démographie plus variée, peut-être plus de personnes handicapées, on voit peut-être plus de monde.
Oui, mais là d'où je viens, je suis handicapé de service dans ma ville. Là.
Souvent, c'est ça, on est l'handicapé de service quand on vient d'une petite ville, mettons. Puis, tu sais, des fois, on va souvent être la première manifestation d'une personne handicapée dans la vie
oui.
d'un enfant de 4, 5, 6 ans, puis qui vont toujours être un peu comme entre l'émerveillement et l'étonnement, puis ils
oui.
sont pas sûrs, puis ils ont des gros yeux. Non, regarde,
et là, t'as le parent à côté qui
ouais,
sait pas comment gérer.
C'est, ça. Ouais. C'est quand même drôle. Puis, tu sais, je leur en veux pas aux enfants. Puis souvent, comme quand ils posent des questions, après ça, tu finis par... Tu sais, tu veux que leur première interaction avec une personne handicapée soit positive.
Oui, autant que possible.
Sauf qu'à un moment donné, à l'épicerie, il y avait deux enfants, mais comme deux pré-ados de genre...
OK, pas si jeunes.
C'est ça, tu sais, 11 ans peut-être. Puis qui avaient l'air à trouver ça donc bizarre, un petit gars en fauteuil roulant.
OK.
Puis ils comprenaient pas... Puis il y avait là, tu sais, comme ils se regardaient les deux, puis ils me regardaient, puis t'es comme, c'est bien bizarre, il y a une drôle de forme, ce gars-là. Puis je voyais que j'avais l'air à les traumatiser, et je sais pas pourquoi, mais j'ai juste décidé que j'allais les suivre tout le long de leur épicerie, et aller me mettre dans leurs jambes constamment quand ils voulaient aller prendre des trucs. J'allais comme faire exprès d'aller créer un malaise,
oui.
puis de comme aller, genre, les toucher un peu, puis de... tasser pour comme juste leur mettre encore plus le malaise d'en
très
face.
Mature. Très
ouais,
mature.
Je sais pas si la bulle qui m'est passée cette journée-là, mais je me suis dit comme ça vous rend-tu si mal à l'aise à ça qu'il y a une personne handicapée dans une épicerie, si oui, je vais comme pousser au maximum le bouchon.
Mais il y a plein d'adultes qui font ça, hein.
C'est
moi,
vrai.
J'en ai vu beaucoup, il y a des adultes qui étaient tellement mal à l'aise, je me disais, mon Dieu, est-ce qu'ils pensent que si j'approche, ils vont le pogner?
Ouais.
C'est quelque chose qu'on peut, c'est comme un rhume, mettons.
Transmissible, ouais.
Il est transmissible.
C'est ça.
C'est arrivé avec des adultes, moi, il y a un adulte, une fois, encore au Super C à Montréal, là, ils doivent être contents que je sois déménagé, l'autre. Mais je suis arrivé avec mon chien d'assistance à ce moment-là, avec Sonny, mon premier chien, je marchais jusqu'à l'épicerie, hein, j'étais en forme. Et donc, j'arrive avec mon chien d'assistance qui est à la marche. Donc, je me tiens sur l'harnais du chien et je marche. Et clairement, la dame était très mécontente de me voir arriver avec un chien. Il a dit, c'est pas de bon sens, un chien dans une épicerie. Aucun bon sens. Puis voyons donc, puis pourquoi personne ne sort et tout et tout. Et là, la pauvre caissière qui devait avoir 16 ans, écoutez, elle a le droit d'avoir un chien d'assistance. Moi, j'étais à la caisse. Elle s'est mise à la caisse derrière moi. Là, elle aurait pu choisir une autre caisse, d'ailleurs. Mmh. Et là, je réponds à la dame, écoutez, vous en faites pas, là, la semaine prochaine, je vais venir avec mon lion, en voulant dire à la pauvre caissière, fais-toi en pas, là, t'es pas assez payé pour gérer ça, ma pauvre fille, hein.
Ouais.
Il y a sa affaire. Et la dame s'est mise à lancer ses légumes.
Hein?
Sur mon chien.
Ben.
Elle a pété une crise, parce qu'il m'a lancé les légumes. Et là, je trouvais ça drôle, jusqu'à temps qu'elle frappe mon chien avec ses carottes. Puis là, mon pauvre chien m'a regardé en disant, est-ce que c'est un nouveau jeu? Est-ce que je dois ramasser? Parce que ouais. quand quelque chose tombe,
ouais.
elle doit le reprendre. Et là, elle branle la queue en disant, est-ce qu'il faut que je ramasse les carottes? En même temps, c'est très bien qu'elle n'a pas le droit de ramasser la nourriture. Donc là, elle me regarde en disant, dis-moi quoi faire. Et elle s'en vient, elle comprenait pas trop pourquoi elle lançait des choses dans la face.
Oh.
Et là, bon, à ce moment-là, je me suis quand même fâchée. Je dis, oh, madame, il y a quand même des limites, là, que vous soyez fâchée. Je comprends que vous attaquez mon chien à coups de carottes, c'est non.
Une tabarnak de
j'ai le droit d'être là, tu sais. Et donc, ça a vraiment paralysé, là, super. C'est, le gérant est arrivé et tout et tout. Et Adam était avec deux enfants, deux pauvres enfants qui voulaient se cacher en dessous du tapis. Là.
Et
Adam est juste parti hein, parce que le gérant essayait de lui faire comprendre et elle voulait pas comprendre.
Le gérant, il est intervenu.
Oui, il est intervenu en ma faveur. Il me connaissait. Là, veut pas, là, quand je rentre à l'épicerie, et j'y allais quand même souvent, on me reconnaît. Je suis la fille avec un chien. Là,
ouais.
Et moi, je dis bonjour de façon sympathique aux employés parce que tout le monde me regarde. Là, fait que
ouais.
dans quelques jours, je vais être gentil. Donc, vraiment, il est intervenu en ma faveur. Il était gentil, ce monsieur-là. Mais oui, Adam, complètement, là, très, très en colère. Et souvent, les gens sont en colère, passent un commentaire, voyant le chien. Et continue, mais elle m'a suivi au caisse et a lancé ses choses sur
ça,
mon
c'est...
chien. A perdu au moins 3-4 piastres de carottes à terre. C'était
mais...
avant l'inflation, c'est une grande, mais quand même. Écoute, il était vraiment fâché.
Mais ça, c'est un cas, je pense, de santé mentale. Je pense que c'est le cas
oui, possiblement,
d'une personne
qui a un... possiblement.
Tu peux, tu sais, comme souvent, on voit, comme, mettons, des chauffeurs de taxi avoir une réticence de voir un chien qui embarque, mais comme ils vont pas s'en prendre physiquement au chien,
non, ça, c'est
la discrimination est plus passive. Ils vont
j'ai
comme...
eu quelques coups de pied au chien, là, dans les épiceries, dans les endroits publics, ce que j'accepte pas non plus. Va gérer ta frustration d'aller à côté, donne pas de coups à mon chien, surtout que mon pauvre chien ne sait pas quoi faire dans ces moments-là, ne répliquera pas, donc va se tasser dans le coin.
Du
il va,
peut,
il va me demander, tu sais, me demander comme ça le pari, mais
ouais.
je veux dire, me regarder en disant, ben, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'ai fait de mal là, pour recevoir un coup de pied, je suis comme, rien à part d'exister, ma pauvre. Donc, ça, je n'accepte pas. Là. J'accepte les commentaires, j'accepte les questions un petit peu maladroites et tout. J'essaie, comme toi, de répondre gentiment.
Mm-hmm.
Mais quand on s'en prend à mon chien, j'ai quand même un devoir de protéger mon chien. Là, je me fâche.
Ouais.
Et c'est assez rare que je me fâche, mais là, je me fâche et je fais bon, ben, allez vous gérer ailleurs. Là,
ouais.
Si vous voulez, j'ai des très bons numéros de psychologue dans Montréal.
Ouais.
Je peux vous donner des références.
Ben, pour vrai, ces cas-là, je pense, c'est vraiment des cas de santé mentale. C'est du monde qui sont pas bien dans leur peau.
Ouais, ils sont clairement pas bien dans leur peau parce que mon chien, il cure quand même. Là,
ben oui, comment tu peux faire ça?
Donc, je veux dire, tu peux ne pas aimer l'idée que le chien soit là. Je peux comprendre la limite. Tu peux éviter m'arranger parce que t'es mal à l'aise avec un chien, je peux comprendre.
Ça, tu peux avoir peur.
Il y a des
chien.
Gens qui me disent, excusez-moi, madame, j'ai peur, je veux pas de problème, il est très gentil, je peux le tenir pendant que vous passez.
Ouais.
Jusque-là, ça va, mais de là à frapper le chien ou à vraiment là, avoir une crise de colère intense, c'est arrivé il y a quand même plusieurs fois dans ma vie. D'ailleurs, mon chien, déjà, quand Denis Coderre a refusé les pitbulls à Montréal là, pendant un bout de temps, Mon chien a été pris pour un pitbull, ce qu'il faut le faire quand même, parce que je suis un labrador mélangé avec un bouvier bernois, donc un gros chien noir qui ressemble à un ours, hein, pour les auditeurs. Et mon chien a été pris pour un pitbull, et donc on a appris à polir sur Dollarama, parce que j'avais un pitbull dans Dollarama. Et là, je me suis dit, écoutez, c'est pas pitbull, puis là, je m'emmenais juste chercher du chocolat. Donnez-moi 5 minutes, je vais ressortir, là. Vous en faites pas.
La police est arrivée au Dollarama.
Là, bah, finalement, je me suis dit, bon, OK, on va s'asseoir. Donc, j'ai dit, apportez-moi une chaise, je vais attendre la police. Écoute, bon, j'avais juste ça à faire. Je me suis dit, grosse journée, je vais m'asseoir. Donc, on m'a apporté une chaise, je me suis assis, j'ai attendu la police. Et la police est arrivée. Il a dit, est-ce qu'il y a un problème, madame? J'ai dit, monsieur, ici, pense que mon chien est un pitbull. Il voudrait une intervention, s'il vous plaît. Et là, les deux policiers, parce qu'ils étaient deux, se sont regardés, m'ont regardé, ils m'ont dit, vous me niaisez? J'ai dit, moi, je vous niaise pas, c'est pas moi qui ai appuyé, c'est monsieur, donc vous pouvez gérer ça avec monsieur. Moi, je vais juste attendre. Et donc, ils ont dû expliquer que le chien n'était pas un pitbull. Et quand même, si un chien avait été un pitbull, un chien d'assistance reste un chien d'assistance. Et donc, il n'avait pas à intervenir. Et de, s'il vous plaît, ne pas appeler la police pour des cas comme ça, parce que la police de Montréal a mieux à faire. Et le monsieur était fâché de ne pas avoir raison et parti très en colère. Encore une fois, Dollarama, on me connaissait bien. Donc, les dames ont ri, m'ont porté gentiment une chaise et on a entendu la police. Mais pendant ce temps-là, il y avait probablement une fille qui était violentée à quelque part et que la police n'a pas aidé parce qu'il devait gérer la pitbull au Dollarama. Le pauvre chien qui, moi, je m'en venais juste chercher du chocolat, puis le chien n'est pas entré en contact avec le monsieur, là. Il aurait juste pu me laisser passer, puis continuer sa vie. On aurait quand même sauvé une demi-heure. Mais ça fait quand même une bonne anecdote. Si un jour j'écris mes mémoires à Kevin, je le mettrai.
Ça ferait un excellent épisode de 19-2, je trouve.
Oh oui, merci Kevin. S'ils font une nouvelle saison.
Peut-être un film un jour. J'ai entendu ça entre les branches.
De film de 19h, ça serait très
un
bon.
Un genre de spin-off.
Là, toi qui as des contacts là, à Radio-Canada et tout, va nous chercher l'information, tu nous viendras.
Je peux pas en dire plus, mais j'ai entendu dire ça.
Oh! On a des primeurs à Canada, tout le monde. Donc, si jamais tu as d'autres primeurs, tu reviendras à mon émission.
Ça fera plaisir.
On fera une chronique primeur de Radio-Can. Ils font des conversations d'ascenseur
les
les
scoops des coulisses.
Oui, les scoops des coulisses d'ascenseur de Radio-Can. Merci pour l'idée. Mon balado va être grandement amélioré grâce à toi, Kevin.
Ça fait plaisir.
On te prendra dans une pause à Radio-Can. Tu iras te cacher dans les toilettes.
Et avec
tu m'appelleras, oui, avec un micro. Et tu m'appelleras et je te dirai une source anonyme. Me vient de quelque part sur Sherbrooke. Viens me dire que. Et on pourra continuer comme ça.
Je vais partir à la chasse aux scoops.
Merci, Kevin. Tu deviendras mon reporter officiel. Alors, je pourrais dire qu'on a une source en ondes et arrêter tout pour t'écouter. Donc, sinon, il nous reste encore quelques minutes parce que tu veux nous parler aussi de tes meilleures anecdotes de salles de spectacle. Il paraît que tu as des choses à dire là-dessus.
Il n'y a pas longtemps, j'étais... moi, c'est quand même assez rare que je sors beaucoup. Je suis quand même assez ermite dans la vie. Mais là, ça donnait que... Tu sais, je vais peut-être voir 10 spectacles dans l'année, mais ça donnait que j'en avais 3 en 3 soirs.
Oh!
Ouais, c'était une grosse fin de semaine. Puis tu sais, les matins, je me lève tôt parce que je fais la radio, à Radio-Canada. Puis, c'est pour ça que c'est rare que je sors. Là, j'en avais un jeudi soir, je suis allé voir Alice Sapie.
Oui.
C'était écœurant. Non, c'est pas vrai. Le jeudi, je suis allé voir Pub Royal. Le vendredi, je suis allé voir Alice Sapie. Puis le samedi, je suis allé voir Carquois au Métropolis.
Oh, c'est quand même 3 bons spectacles.
Un bon line-up, quand même. Hein? Sur le plan artistique, j'ai passé une très bonne semaine. Mais.
Tu reviens à l'accessibilité, c'était moins hot.
C'était moins hot. D'abord, la chose qui me gosse le plus, je pense. Moi, c'est quand... Parce que là, à la Place des Arts, là où avait lieu Pub Royal, c'était au Théâtre Maisonneuve.
Oui.
On peut pas acheter des billets en ligne quand on veut un billet dans fauteuil roulant.
Appeler. Ça m'énerve, oui.
C'est-tu gossant?
Oui.
Puis là, à chaque fois, j'appelle...
On fait partie d'une génération qui aime prendre ses billets en ligne. Hein?
Ben oui, c'est ça. Puis je comprends pas... Là, comme à chaque fois que je dois appeler, tu t'attends comme 30-40 minutes au téléphone pour parler une téléphoniste, par une préposée au service à la clientèle.
C'est un peu infantilisant aussi là, de voir
appeler. Surtout que là, on me dit, mais là, je leur dis, tu sais, pourquoi est-ce que je peux pas acheter mes billets en ligne comme tout le monde? On me dit, ah, ben, c'est parce que on veut s'assurer que vous êtes, c'est vraiment une personne handicapée qui achète les billets.
Ah, parce que par téléphone, ils peuvent te.
Mais c'est ça, par le timbre de ma voix, ils peuvent plus le voir, tu sais, c'est absurde.
Là, t'as vraiment un timbre de voix qui.
Qui sonne handicapé. Là, c'est ça, je dis à la fille, je dis, bon, mais comment tu comment, quelle preuve t'as que je suis handicapé? Puis là, il est comme mal à l'aise. Ah, ben, on a toujours fonctionné de même.
Donc, ah,
à chaque
bonne
fois,
réponse.
Je fais un courriel à la responsable, là-bas, puis je leur dis, tu sais, mettez-vous à jour.
T'en as fait combien de courriels?
Ben, ça fait 3 ans que je suis là-dessus. Oh! Puis il y a pas mal à chaque année, j'en fais. Mais là, j'en ai parlé à un de mes journalistes qui est.
Oui, t'as...
C'est ça, là,
t'as des bons contacts à ça. Ouais.
Tu sais, ça revient à ce qu'on a tantôt, le militantisme puis le journalisme. Là, le,
oui, comment... à un moment donné, c'est parce que tu dois aussi d'essayer d'améliorer ta vie. Hein.
C'est ça. Puis là, tu sais, est-ce que je fais un anicroche à mon travail de journaliste parce que je rappelle comment ça se passe, moi, dans les salles de spectacle? Ouais,
parce que t'as pas le goût d'attendre 45 minutes au téléphone. Hein.
C'est ça. Fait que là, je sais qu'il y a comme un article qui se prépare là-dedans dans la presse, parce que ça fait plusieurs fois que je leur dis. À la place des arts, puis ils me disent « Ah, ben, ils me donnent ces raisons-là. »
C'est quand même la place des arts. Hein. C'est
quand même
la place
des arts.
C'est un petit théâtre du fin fond d'une ville qu'on pourrait comprendre peut-être ouais. qu'il y a moins de moyens techniques. Hein.
C'est ça, puis ça, c'est ce qui me fâche le plus, c'est qu'ils me disent pas la vraie raison. Ils me disent c'est pour offrir un accompagnement spécifique aux personnes handicapées quand on parle d'infantilisant, c'est ça?
Ouais, ben voilà.
Mais la vraie raison, c'est que mettre à jour la plateforme de vente, ça coûterait des sous, puis ils veulent pas mettre de l'argent pour ça.
Non, c'est ça. Voilà.
Au moins, s'ils me le disaient, la vérité.
Oui, au moins.
Je serais comme, OK, fine.
On va être transparent, là, on n'a pas d'argent pour ça, mon cher monsieur.
C'est ça. OK, au moins, dites-moi là, faites-moi pas croire que c'est pour me flatter dans le sens du poil.
Oui, parce que clairement, t'as besoin de te faire accompagner, hein, parce que t'as quand même 34 ans, là.
C'est ça.
Rentrer dans une salle par toi-même puis être capable de te placer, c'est difficile.
C'est assez, en tout cas. Fait que ça, c'est à la place des arts. Le vendredi à Elisapi, je suis allé à l'usine C, et puis c'est la première fois que ça m'arrivait, ça, que la salle de spectacle, il n'y avait aucun siège désigné. Tu sais, habituellement, on enlève...
Plus en a, oui.
On enlève un siège ou deux, puis c'est comme là qu'on doit se placer.
Oui.
Puis dans les rangées, il y en a, y a comme au bout de l'allée, il y a comme une place.
Une petite place,
oui. Whatever. Là, on m'a juste conduit, on m'a emmené à la salle de spectacle, puis on m'a pointé un siège normal, comme si je devais devoir me transférer. On m'a dit, c'est votre siège, c'est ça le siège qu'on a. Fait que j'ai dû rester devant, tu sais, comme au-devant de l'allée.
Ah oui, ça c'est confortable.
Tout seul, presque devant, presque sur le stage.
Oui, oui.
Parce qu'il n'y avait pas de tu sais, le stage, puis le... Fait que c'était bien étonnant.
C'était un peu malaisant,
oui. Ouais, c'était bien malaisant parce que, tu sais, j'étais avec quelqu'un, j'étais avec ma blonde.
Oui.
Elle était comme assise derrière moi.
Oui, t'sais. Voilà, donc t'es au niveau de la conversation. Quand t'as un petit commentaire à passer,
tu
doucement, on oublie, ouais.
T'étais comme tout seul en avant, c'était vraiment bizarre. Puis au Metropolis, ou MTLUS, ça c'est ce qui me fâche le plus parce que c'est une institution qui a quand même des moyens. Quand tu rentres là-bas en fauteuil roulant, il y a un monte-charge parce qu'il y a comme 2 paliers d'escalier. Ouais. La plupart du temps, le 3/4 du temps, quand je vois les doormen, ils bordent pas avec ça, le monte-charge. Ils me prennent à deux, puis ils me montent dans les escaliers.
C'est quand même pas idéal, mais
c'est
bon.
C'est pas l'idéal.
On fait avec. Hein?
J'aime pas tant ça, mais peu importe. Sauf que là, ben, je me suis dit, je vais prendre le monte-charge. Le monte-charge est là. Le monte-charge est brisé. Il fonctionne pas. Il me dit, ouais, ça fait une couple de semaines qu'il marche
une
pas vraiment.
De semaines.
Là, je suis comme, OK, mais pourquoi vous ne l'avez pas dit, tu sais? Puis, tu sais, moi, on peut me monter parce que je suis en fauteuil manuel. Tu sais, je pèse. Tu sais, comme
ouais, t'es
deux
pas
hommes,
très lourd. Ouais,
c'est
oui.
ça. Deux hommes peuvent me monter 4-5 escaliers.
Un monsieur de 300 livres, c'est difficile, là.
Ouais. Mais 4-5 marches, moi, ça va. Mais quelqu'un qui aurait payé son billet pour Carquois, 100$.
Puis encore là, c'est infantilisant quand même. Moi,
oui.
je serais très malaise de ça.
Ben oui, puis des questions de sécurité.
Oui, oui, aussi.
Je veux dire, il faut quitter rapidement la salle de spectacle. Là. Faut que t'attendes qu'il y ait le doorman.
On tient ça. On sacrifie Kevin.
Puis pour rentrer, quelqu'un qui sera en fauteuil motorisé n'aurait pas pu rentrer voir son spectacle. Fait que moi, je suis comme, aime TELUS. Tu sais, quand TELUS a acheté les droits de nomination pour le Metropolis. Est-ce que t'es pas gêné de ça?
On aurait pu faire mieux, là, oui.
À ça, tu sais? Fait que ça m'a
bien fâché. La réponse, c'est non, mais il aurait dû.
Il aurait dû, certainement.
Donc, sur ça, on va arrêter l'épisode parce qu'on a pris quand même là, pas mal de temps dans notre discussion. On va se revoir pour une prochaine épisode avec une autre personne qui va être en situation de discrimination par la société. Kevin Breton, merci beaucoup.
Ça m'a fait plaisir. Lisa.
Merci Mathieu Tessier à la technique. Merci aussi à Yann Roy au niveau de la recherche. Et puis de notre côté, on se retrouve pour l'épisode 3. Bye bye.